Ok. Ce week-end, on a parlé beaucoup dans la conférence de des amitiés divines. Et donc, moi, je réfléchis sur le thème et je voudrais amener ce soir une pensée, pas vraiment une pensée, un enseignement, pour donner un exemple. Souvent, quand on pense à des amis, et des exemples dans la Bible, on pense automatiquement à David et Jonathan. Et ça, c'est bien, parce que c'est Ancien Testament. On a un peu de références sur l'amitié, mais les références sont assez profondes. Mais je propose d'aborder ce soir sur l'épître, petit épître de Philémon. Donc, Philémon, c'est 25 versets. C'est très court. Et je vais demander si quelqu'un peut lire ça. Quelqu'un qui est francophone, qui peut lire ça, ça va être bien. Je ne sais pas. Ratio, tu veux te faire? Merci.
Il est fort, je le sens direct. Paul, prisonnier, pour le Christ Jésus et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, et à Achippé, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu nous reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi Paul, un vieillard, de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désigné le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ait par l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai pour ne pas dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
Merci beaucoup, Horacio. Donc ce soir, je voudrais parler d'un thème et citer quelques caractéristiques de l'amour qu'on peut voir et la relation qu'on peut voir entre Paul et Philémon. Et quand on voit ces deux hommes et on lit cette lettre, on peut voir les points suivants. Évidemment, on peut voir beaucoup plus, mais on est spirituel. Et notre regard avec les lunettes de la foi. Et quand on lit la Bible avec les lunettes de la foi, on peut voir la réalité de l'Esprit de Dieu et on peut voir l'amour, on peut voir que Paul est clair dans ses paroles. Il n'est pas un soupçon de mal, il n'est pas une motivation qui est mal. Et la première chose qu'on peut voir est qu'il a dit bien-aimé. Donc il parle de bien-aimé en verset 1. Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. On est bien-aimé, ce n'est pas juste les paroles. On est aimé par Dieu et quand on dit ami, c'est rempli avec une signification. Le monde utilise les mots avec certaines significations, mais c'est tellement profond. Si je suis un ami de Dieu, c'est pas rien, c'est pas une pote. Le problème avec le langage humain, français, anglais, allemand, espagnol, roumain, je cherche pour les finlandais. Toutes ces langues et plus, on a des mots, mais derrière le mot, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Prends pour exemple le mot mari ou femme, épouse et époux. Quand il y a un amour, le mot est rempli avec quelque chose parce que nous avons des émotions derrière. Et nous avons, waouh, si je dis ma femme, Isabelle, derrière il y a tous ces attachements. Ce n'est pas juste un mot comme ça avec aucune signification. Il y a quelque chose derrière. Et nous, en tant de croyants spirituels, en tant de chrétiens, on est en train de développer une sensibilité qui n'existe plus avant. C'était, on a vu des choses, les films, on a lu les livres, on entend les musiques, les paroles, et maintenant on est plus sensible, et certainement on est sensible, bien aimé. Quand il dit je t'aime fort, c'est pas juste ah bonjour et au revoir, c'est vraiment je vais donner ma vie pour toi et je suis volontairement prêt de servir. De dire bien aimé et pas une petite chose, c'est profond et c'est intime. Des hommes, on a souvent ce problème de dire je t'aime. Oh, je vous aime. Dans de la cour de Christ, le mot est amour et de aimer est utilisé, banalisé. Mais quand on parle de la cour de Christ, on est en train d'apprendre un vocabulaire. Et le vocabulaire est pas éphémère, comme j'ai déjà dit. De dire mon ami, et de dire, vraiment, je suis prêt de servir cette personne jusqu'à la dernière souffle. Et on peut dire, voilà, le standard de Dieu est comme ça. Mais il faut savoir, on est Christ en nous. Et l'exigence était déjà complète à la croix. Et d'accepter d'entrer dans cette vie et d'être rempli avec l'Esprit et de nous amener à une sensibilité. Une telle sensibilité de lire la Bible, des fois, on est tellement émotionnel. Et dans un sens, des fois, c'est un indicateur de notre état d'esprit. Si on dit, ah, bien-aimé, on est très familier avec ça. Et Dieu n'aime pas la familiarité. Donc, comme Paul dit, bien-aimé, c'est touchant pour Philemon parce que ça touche le cœur profondément. Il sait, il connaît, mais de lire ça, combien de fois on a écrit une lettre pour ceux qui sont mariés, évidemment, on est tous mariés ici, donc est-ce que nous avons des communications avant de te marier, des messages, et on lit et on relit les lettres avant texte, avant internet, c'est des siècles en arrière, mais d'écrire une lettre et dire waouh, ça c'est la lettre de mon amour. Et on lit les lettres, on relit les lettres, on relit les lettres. Je peux clairement rappeler un SMS que j'ai reçu de ma femme avant d'être mariée. Je peux clairement rappeler un qui m'a touché mon cœur et c'est toujours là dans le cœur. Philemon, Paul, c'est des choses précieuses qui restent dans le cœur entre ces deux hommes. C'est pas banalisé, c'est pas petit. Ils sont en train de parler. Paul est en train d'ouvrir son cœur ici. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais chercher verset 11. Et ça, ça amène vraiment voir le cœur de Dieu. Verset 11, 2 Corinthiens 6. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Oh, Corinthiens, il dit en chapitre 7, pourquoi que vous êtes tellement froide? Moi, mon cœur est exposé. Quand on aime quelqu'un, on prend le risque. Et Paul ouvre, son cœur est ouvert. Philemon peut dire, oh, comme ça, il peut être tellement légère et disrespectueuse. Mais on peut voir la façon il écrit, il connaît le cœur de Philemon. Et ici, il est en train de dire, bien-aimé, mon cœur est ouvert. Toute la lettre est remplie avec signification. Tu vois le cœur de Paul. Des fois, on entend le cœur de quelqu'un quand ils sont en train de prier dans le corps de Christ, ouvertement. À haute voix, quand on entend, on dit waouh, ça c'est quelqu'un avec la foi. On entend la prière, on dit ça c'est quelqu'un authentique qui vit par la foi. Amen. Parce qu'on est peut-être, on a entendu dans le passé la façon religieuse de prier et d'écrire la Bible. Quelqu'un qui marche avec Dieu, quand il lit la Bible, c'est comme le feu. On entend les personnes en train de lire, on dit waouh. Et ici, chaque parole, c'est profonde, chaque parole. Il n'est pas, c'est pas éphémère, c'est pas, il est en train de remplir les lettres avec des mots qui sont inutiles. Chaque parole est profitable, chaque parole a une signification profonde. Et Dieu, clairement, a c'est une lettre entre deux hommes qui est privée avec un but. Mais c'est clairement une lettre qui est inclue dans les écritures pour un but pour nous aussi parce qu'on est en train de lire. Et ce soir, en train d'étudier ça. Mais vraiment, tellement intime dans cette lettre. Paul, tellement intime. Le deuxième âme. Chose que je voudrais dire. Le mot tranquilliser, moi je trouve ce mot, aujourd'hui je l'ai lu pour la première fois, tranquilliser, tranquille, oui, mais ça semble plutôt comme un biologiste ou quelqu'un qui travaille avec des animaux qui a quelque chose pour une date de tranquilliser et l'éléphant tombe comme ça. C'est un peu bizarre. Ah, Paul en train de dire, Philemon, tranquille-moi. Et Philemon, imaginez qu'est-ce qu'il... Comme ça. C'est un peu rigolo. Mais tranquille. Est-ce qu'on est des amnétiques, on peut dire peut-être, qui sont toujours en stress et la personne est en train de perdre ses sens, hors de sens en fait. en train de stresser, en train de péter les plombs des fois. La personne n'est pas tranquille. Ici, nous avons deux hommes qui sont en repos dans l'œuvre de complet. Le repos de la grâce est un repos que le deux peut aider l'autre de reposer. On a besoin de repos dans ce monde et on a besoin des amis qui amènent ce repos. Je suis tranquille, Philemon, parce que tu es tranquille et tu, le mot utilisé dans le derby amène une fraîcheur. Je suis comme il fait chaud d'eau, j'entre dans la maison et je bois de l'eau fraîche. Ah, je suis maintenant de nouveau rafraîchir. Renouveler, rafraîchir. J'ai besoin de ça spirituellement. J'ai besoin de des amis qui peuvent amener ça. J'ai dit, wow! Dans la conférence à Paris, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous avons des visiteurs. Ils sont, ah, oh, c'est magnifique d'être dans cette église. C'est comme un verre de d'eau, l'eau, verre de l'eau fraîche. C'est rafraîchissant, c'est tellement bien. Je suis encouragé pour les en train de dire. C'est comme ça, il y a un ami qui est pas prêt de mettre tous les fardeaux sur ses épaules. Des fois, on a des gens qui veulent être nos amis, mais ils sont toujours dans un sens unique. Ça veut dire, c'est toujours aide-moi, aide-moi. Ils nous appellent ou il nous contacte, il dit, je suis en train de péter le plan, je n'arrive pas, je vais rentrer dans une folie, une forme de folie, et il demande aide. Et on dit, écoute, on peut aider, mais c'est dans un sens unique. Après, ils ont dit merci, et on n'a aucun contact. On ne sait pas ce qu'est en train de passer. Mais la vie chrétienne est une vie qu'on n'est pas dépendant de l'autre, mais on est complémentarité. Il y a une complémentarité dans les deux sens. On est béni par l'autre et il y a un échange de la vie. Je suis encouragé par Philemon, Paul en train de dire, et Philemon est encouragé par Paul. Donc, comment le faire peut aiguiser le faire? C'est quand nous avons deux parties en train d'aider l'autre. Et quand on voit les gens comme ça, on dit, waouh. Dieu est bien sûr en train de stabiliser et fortifier la foi de quelqu'un qui a un certain manque d'autonomie. Et dans le corps de Christ, c'est que les gens peuvent arriver d'avoir cette autonomie de marcher, pas indépendant de Dieu, mais de ne pas avoir toujours une dépendance sur les autres. Et Philemon et Paul, la relation est saine. Saine, c'est normal spirituellement. C'est deux hommes qui peuvent juste être dans la même salle. Des fois, dans une amitié, on peut pas évidemment dans les mariages, mais des fois avec des amis, c'est possible. On n'a pas besoin de toujours parler. On est juste en repos dans le même lieu. La communication n'est pas nécessairement verbale, mais il y a un sens d'être à l'aise. Est-ce qu'on est à l'aise avec le silence des fois? D'être présent, pas besoin de toujours parler. Une forme d'insécurité se manifeste quand on est dans la présence de quelqu'un et en train de parler, de rompre le silence. Et si ces deux hommes, je pense qu'ils peuvent être tellement honnêtes et ils peuvent être des fois en repos. Rien à prouver, rien à montrer. C'est juste une vie avec Dieu au centre. Donc, tes cœurs tranquillisés. Et je vous assure, si nous avons des relations qui sont comme ça, ça va nous aider beaucoup d'avoir une maturité et de passer et traverser les moments difficiles. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va mettre plus de poids. On a besoin de quelqu'un qui peut aider avec le poids et qui peut également aider. Ça veut dire travailler comme une équipe. Et le corps de Christ est comme ça. C'est cet attachement et pas comme on a entendu dans le confrontation séparée. On a parlé un peu de la puissance de l'âme. Puissance de l'âme?
Attachement d'âme?
Non, la puissance. Oui, oui. Dans ce sens, il y a une puissance dans l'âme de cette personne. Il doit diriger. L'autre doit être toujours soumis à ça. On n'est pas en train d'avoir des attachements non plus. C'est quelque chose de spirituel. Troisième point. Philippiens chapitre 4, verset 2, partie B, parle d'avoir les mêmes sentiments. Ici, c'est deux hommes avec unité. Ils ont les pensées de Christ, humilité. On va parler, ça c'est le quatrième point. Mais cette sens de unité, comment deux peuvent marcher ensemble, amasse-toi, s'il n'est pas une décision de l'esprit de marcher ensemble, d'être d'accord. Donc, je suis d'accord, j'accepte de marcher dans la même direction. Deux bœufs avec un joug. Et les bœufs écrasent, ils labourent le champ ensemble. L'importance, et je peux pas vraiment noter de parler de ça, mais je vais mentionner ça. L'importance de pas avoir une joug étrangère. Ça veut dire, on pense, on parle souvent des relations dans le sens de mariage avec un joug étranger. Évidemment, le contexte de ça en 2 Corinthiens, c'est Paul en train de parler des relations. Ici, on peut dire également un joug étranger et un joug avec deux chrétiens avec pas la même vision. Comment un mariage va travailler et va réussir? C'est parce que les deux sont d'accord avec la même vision. L'homme, il a une vision. La femme, elle, évidemment, va accepter parce que peut-être elle a la même vision aussi. Donc, soumission. Et les deux marchent ensemble. Pas dominance de l'homme, mais plutôt une acceptation d'être soumis à Dieu. Et bien sûr, l'homme va diriger dans un sens, mais bien sûr, l'équipe de travail ensemble, donc une complémentarité de l'homme et de femme. Quand on cherche, des fois, je vais dire ça maintenant pour le message, j'ai vu ça dans le passé que quelqu'un en train de fréquenter avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Ou quelqu'un qui est croyant mais pas vraiment engagé dans une église, ou quelqu'un qui est croyant et pas vraiment de la même doctrine. Et le problème avec ces choses, quand j'ai conseillé certaines personnes dans le passé, ça va pas marcher juste parce que la personne est sauvée. Imaginons une relation entre deux personnes, hommes et femmes, des autres nationalités qui sont charnelles, naturelles. C'est déjà difficile quand nous avons deux cultures qui sont différentes. Ça, je parle d'expérience, c'est ça. Que c'est difficile si nous n'avons pas Christ au centre. Il faut avoir cette vision, être du corps de marche ensemble. Et juste parce que la personne est sauvée, c'est pas suffisant. Il faut que les deux sont sauvés, il y a maturité, il y a le même sens de doctrine, il y a aussi, on peut dire, c'est pas absolument rigide, doctrinal, mais ça aide quand les deux sont dans la même église. Parce que si quelqu'un habite là, il habite là, évidemment, il doit avoir un compromis. Ça veut dire de travailler ensemble afin que les deux sont dans la même église. Et des fois, j'ai noté ça, qu'on avait des personnes qui visitent l'église et le mari est dans une église et la femme est dans une autre église. J'ai dit, OK, Je ne comprends pas comment ça va passer. J'imagine il y a des raisons. On n'est pas là pour juger. Mais quelle est la normalité de Dieu? Que deux marchent ensemble dans la même équipe, même vision. Et si c'est le même ministère, évidemment, Greater Grace, l'église de la grâce, évidemment, idéalement, les deux sont dans la même église en même temps, en train de marcher avec l'équipe, en train d'être formés et équipés. Donc, joug étranger, c'était une parenthèse, c'était pas noté, mais je pense que c'est important parce que c'est aussi noté dans ce troisième point, la même pensée. Si nous n'avons pas la même pensée, si on arrête d'avoir la même pensée, nous avons des problèmes. Et je vais dire ça absolument directement, ce n'est pas un jugement. Si quelqu'un abandonne son appel, imaginons un mariage spirituel et les deux abandonnent l'appel. Problème tout de suite. Progressivement, en train de partir dans une autre direction. Quelle est la chose qui colle une relation? Quelle est la substance qui est le col? Le glue, le col. On peut dire ça?
Le col?
Le ciment, qui est plus la connexion? C'est Christ. Et si Christ n'est pas au centre, parce que les deux sont en train de aller dans une autre direction, tu peux dire Jésus-Christ est le centre de ma vie, mais si on n'est pas dans l'appel de Dieu, évidemment, qu'est-ce qui reste? Christ n'est plus dans le centre de relation. Maintenant, nous avons un problème que les deux sont laissés de regarder l'autre. Donc maintenant, nous avons le semence de des conflits pour le futur. Ça, c'est mariage. Mais également des amnétés. Je connais des hommes qui sont dans cette église dans le passé. Et ils sont plus. Et un en particulier qui était une bonne amie. Et j'avais des bonnes conversations avec lui. On a des bons moments d'échange, de discussion. Mais il a parti. Il n'est plus là. Il est dans cette direction et moi, je suis en train de continuer dans la bonne direction. J'espère qu'il va trouver et retourner à Christ. Pas dans cette église, mais dans une autre. Mais vois, la relation va être testée. Dans un mariage, évidemment, on n'est pas en train de dire abandonne la foi. Mais juste pour dire, faire attention avec les jeux étrangers. Et des amis aussi, quelque chose d'autre. Et je vais finir cette pensée parce que je continue dans cette pensée. Choisissons nos amis avec sagesse. Je connais un homme dans mon ancien lieu de travail, en entreprise. Et il était chrétien, il est toujours. Il est en États-Unis maintenant. J'espère qu'il est en train de marcher avec le Seigneur. Il n'y a aucune raison pourquoi pas. Mais il a pensé de rester avec un groupe qui sont un clique dans le travail. Toujours le même avec une dame qui était plus autoritaire, qui conduit le clique. Elle est elle toujours avec la parole. Il a dit, je voudrais évangéliser ce groupe. Donc, mon impression, à chaque fois qu'il était avec le groupe, c'est eux qui dominent et lui qui écoute. Donc, influencé par un groupe. Regarde une relation comme ça aussi. On est des amnétés, on pense, oui, j'en vais amener vers Jésus-Christ. Mais si la personne n'est pas préoccupée, on est plus en train d'être influencé, en fait, une influence pour eux. Est-ce que Christ veut qu'on peut évangéliser et toucher les cœurs des gens qui ne sont pas sauvés? Oui. Est-ce que des fois, les contacts, on peut dire, qui amène vers une amnité peut être utilisé, oui, mais idéalement, il y a une limite. La personne est en train de marcher dans le monde, si la personne n'est pas vraiment intéressée, on va gaspiller combien de temps? C'est le Saint-Esprit qui doit parler à nous. C'est pas moi qui peux donner plus de définition que ça, mais soyons sages avec ces choses. La relation avec les collègues, oui. Collègues et collègues, évidemment, dans un travail, mais quel est le but de toutes les relations? On peut voir avec Philemon. c'est que Christ est glorifié, que les âmes sont sauvées, que le corps de Christ est édifié, que mon âme est fortifiée, accrochée et enracinée dans l'amour de Dieu, que je peux marcher dans mon appel. Tous ces éléments importants d'être formés dans la doctrine, d'avoir l'institut biblique dans mon cœur, ça veut dire pas nécessairement la structure, mais aussi le désir de faire ça et aussi la discipline de lire mon Bible, ma Bible et d'étudier et de réfléchir et d'être formé. C'est pas juste le mot institut biblique, c'est tout qui inclut la discipline de suivre Christ. Ok, même pensée, prochain point. Humilité. Humilité. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Est-ce que Philémon et Paul, les deux sont doux et humbles de cœur? On peut voir clairement Paul dans ce passage. Parce que lui, il n'est pas en train d'imposer. C'est lui qui, avec respect, c'est lui qui parle, c'est lui qui communique. Mais il ne fait pas ça comme je suis le grand apôtre, le plus important dans l'histoire de l'Église. C'est moi qui impose. Fais ça, Philémon, parce que je demande. Non, c'est nous sommes respectueux, nous sommes de le même niveau. Il faut savoir, il est en train de dire, il a dit frère Timothée en plus, compagnon à Philémon, en train de dire, on est en train de collaborer, oui. On est en train de collaborer. Ça veut dire pas moi là et toi là, Philémon. C'est en train de dire on est dans le même niveau. Le langage est pas quelqu'un supérieur en train de parler avec quelqu'un inférieur. C'est deux hommes avec les appels différents, mais avec le même esprit et l'unité. Quelque chose que je note et ma touche, c'est de voir les hommes et les femmes tellement humbles. Ils ne sont pas en train de dire, voilà, je suis comme ça, j'ai beaucoup d'expérience, je fais que ça. Non, ils sont tellement humbles. Ils sont là pour servir et écouter les autres. Ils ne cherchent pas la prééminence. Diophrétès, c'était deux gens. Il cherche toujours le prééminence. C'est lui qui dit, j'ai la parole, c'est moi qui conduis l'Église. Mais là, ça, c'est pas l'esprit de Christ. Humilité est de simplement Paul en train de dire, j'ai un respect pour toi, Philémon, et j'ai quelque chose à demander, mais je vais pas imposer. Je laisse toi de décider. C'est tellement cette douceur dans ses paroles. Et le cinquième point, respect. Il y a un respect pour lui. Toutefois, verset 14, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Je laisse toi l'espace. Je laisse la liberté, j'impose pas. Cette relation est une relation qui donne la liberté pour respirer. Paul n'est pas en train d'étouffer Philémon. Il n'est pas en train d'imposer. Est-ce que quelqu'un a expérience peut-être dans un lieu de travail que le chef arrive, authority, et la personne impose sa position en train de faire ça? Ça veut dire qu'il occupe notre place, notre espace intime. Nous avons tous notre sens de espace. Pour certains pays, certaines cultures, la distance entre deux personnes qui est acceptable est longue. C'est vraiment comme ça. Et dans certains pays, c'est plus proche. Et des fois, on est offensé et intimidé quand quelqu'un essaie d'imposer trop proche. J'ai vu ça avec des chefs, des fois, dans une entreprise. C'est peut-être consciemment ou pas consciemment, c'est d'intimider afin de dire, voilà, je suis le chef et vous saviez que je suis le chef. Et c'est de dire que Paul est en train de laisser Philémon l'espace et une vraie amitié est en train de reposer, laisser la place pour la personne. On est sensible de l'esprit. Je ne veux pas donner des principes. Je pense que l'esprit est en train de nous enseigner sur ce sujet. Mais on est en train d'apprendre des relations dans le corps de Christ. Et les relations avec ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ. Peut-être les chrétiens en train de chercher pour une église. Et de peut-être, c'est une ligne qui est peut-être très fin entre et trop distant. Et pour une pasteur, des fois c'est difficile avec les gens qui visitent. Difficile avec les gens qui viennent et peut-être ne viennent plus pour quelques semaines. De mesurer la différence et dire, si je fais ça, ça va être trop. Mais si je ne fais pas, ça va être compris comme l'indifférence. Et donc, il faut que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de discerner les moments. Est-ce que nous avons fait quelque chose parce qu'on a discerné que le Saint-Esprit est en train de faire ça? Et on pense pourquoi, on ne comprend pas, mais après les conséquences, on a résolu un problème, quelque chose a passé, et on comprend après la raison pourquoi on a fait ça. Dans un travail, un lieu de travail, c'est possible d'être conduit par l'esprit dans une liste de choses à faire qui, raisonnement humain, on est en train de dire, il faut faire ça, ça, ça et ça. Le Saint-Esprit dit, non, 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 non. Troisième chose, fais-le. Troisième, premièrement. Et on dit, mais il n'y a aucune raison. Mais il est dit, fais-le. On fait le, et après le chef arrive et dit, est-ce que quelque chose est fait? Et on a dit, oui. Et on a dit, maintenant on comprend pourquoi. Parce que le Saint-Esprit peut nous conduire dans les priorités de nos vies. Il faut discerner. Est-ce que je suis trop ou est-ce que je suis pas trop? Et pour deux personnes différentes, la même situation peut être, on peut répondre dans deux façons différentes. Je contacte quelqu'un par WhatsApp. Et je dis bonjour, comment tu vas? J'espère que tu... Je cherche pour les mots. Et la personne dit, merci pour ton message, j'ai beaucoup apprécié ça. Et pour quelqu'un d'autre, je discerne que ce n'est pas l'approche de prendre parce que la personne va penser, la réponse est, je suis désolé que je n'étais pas à l'église dimanche. Et ma réponse, je préfère de donner la réponse face à face, mais dans le cas que ce n'est pas possible, ce n'est pas un problème, église ou pas église, j'ai pensé à toi. Comment tu vas? C'est tout. Et donc, on doit discerner que pas tout le monde a la même façon de penser. Pour certains, ils vivent dans une culpabilité. Pour certains, c'est un peu noir, n'est-ce pas? Un peu sombre ici dans la salle. Oui, c'est sombre parce que j'ai mis des lunettes de soleil, n'est-ce pas? Le problème pour quelqu'un est que la personne est en train de regarder comme ça tout le temps parce que c'est le cœur. La personne est coupable, donc le filtre est de toujours regarder avec cette perspective. Et ils sont coupables. Mais ce n'est pas nous, c'est là, le cœur. Et donc, quelqu'un peut lire et écouter ce message et lire Philemon et regarde et implanter ou mettre quelque chose dans le livre qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il lit le même texte et il voit la culpabilité. Il lit le même texte, il voit Paul comme un dictateur. Il sent le sarcasme, on peut dire ça, sarcastique. Sarcasme, il voit le sarcasme qui n'est pas là dans le message. Et des gens qui voient comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est une question de cœur. Et donc ici, heureusement, dans cette relation entre les deux, c'est pas du tout discerné, c'est pas du tout une question de sarcasme. C'est dans le cas que ces deux hommes qui ne peuvent pas physiquement être dans la même place en train de regarder face à face. Mais je pense que Jean, quand il a dit dans 2 Jean et 3 Jean, à la fin de ses épîtres, il dit, j'ai plus de choses à dire, mais je vais dire face à face. Parce que c'est nécessaire de dire ça. C'est plus facile. Et des fois, quand les gens posent une question sur WhatsApp, je dis, je préfère de parler face à face. Moi, je n'aime pas. C'est nécessaire, c'est un outil. On ne peut pas être toujours face à face. Mais c'est important. Dieu a nous créé avec des visages. Dieu a nous créé pour avoir personnalité, d'avoir contact. C'est important. Respect. Et les dernières choses, aucune, c'est la vérité, c'est véritable. 6e point. Tout ce que Paul est en train de dire est vrai. Il n'y a aucune motivation cachée. On peut lire cet épître et dire, il commence verset 1 et 2, maintenant il arrive à verset 4, il commence à chatouiller les oreilles de Philemon. Oh, tu es magnifique, je te remercie pour ta foi, j'entends de... Et on peut lire ça et dire, mais il est en train de, qu'est-ce qu'on dit, l'expression en français, flatter, caresser dans le bon sens, afin qu'il peut poser le chose qu'il veut dire. Moi, j'ai un problème, des fois, je dois demander quelque chose de quelqu'un. Dans mon ancien travail, toujours, il faut courir vers quelqu'un et demander, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour... Et j'avais mal de dire, bonjour, comment tu vas? Et tout de suite dans le truc. Je voulais demander comment la personne va parce que je suis intéressé de savoir. Ça veut dire une relation plus sociale. Ça veut dire, tu as une valeur. Tout est important. Et des fois, je vois ça dans le corps de Christ. C'est plutôt faire. On commence à discuter des situations. Moi, je ne veux pas ça des fois. Je veux sincèrement juste demander, et comment tu vas? Et qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as lu quelque chose qui a touché aujourd'hui? Des fois, on est tellement des êtres, qu'est-ce qu'on dit? Pas des êtres humains. On est plus les faits humains. Ça veut dire toujours faire quelque chose. Et donc, chaque communication, c'est est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu peux faire ça? C'est pas important. On a été créé à cœur d'avoir des relations qui sont tellement ouvertes, de parler. Un jour, avec Jésus-Christ, ça va être comme ça. Il va voir le cœur, il va voir qu'on est ouverte. On va avoir une relation qui est rien cachée. Quand il parle de lumière en Apocalypse 22, on imagine qu'il n'est pas un soleil ni une lune parce qu'il est le vraie illumination du monde. Mais il faut savoir, aucun mal, aucun poneros. Pourquoi? Parce qu'il illumine tous les ombres. Il n'y a plus de notion de gris ou de noir dans le âge éternel. Et rien dans nos cœurs non plus. C'est tout est exposé, rien à cacher. Aucune honte, aucun mal, aucune séparation. On parle de ça encore Paul chapitre 21, que pas de pleurs, pas de mort. Imaginons un monde comme ça, on n'a rien caché. Je vois, et c'est ma... Je suis fatigué de voir l'injustice dans le monde et les gens en train de parler, mais ils sont en train de parler avec double langue. Ça veut dire, ils sont en train de dire, on va chercher pour la paix, on va voir ça, les politiciens ou les entreprises ou les influenceurs de ce monde, les philosophes, en train de parler d'une chose, mais derrière, il y a une motivation cachée. Mais on n'est pas de ce monde. Et quand on parle, et quand l'Église vit, c'est comme Philemon, c'est comme Paul, c'est on est des amis, il n'est rien caché. J'aime cette verset. Toujours, je suis touché par cette verset. Nathaniel, Jean 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il est vrai. Nathanaël, ah, finalement, pas un hypocrite, pas quelqu'un en train de dire oui, Jéhovah est en train de chercher pour son propre entrée. Comment Pilate est en train d'être des amis, mais est-ce que c'était le vrai amitié? Le deux en amitié, mais c'est plutôt quelque chose de manipulatif pour aider l'autre ou aider pour eux-mêmes. Mais Philemon et Paul, aucune motivation cachée, c'était vrai. Et ça, ça va être le corps de Christ. Et quand nous avons ça, comme on a parlé de la vision, on est la lumière du monde. Il n'y a rien de ténèbres, on va briller. Et les gens vont dire, wow, trop de lumière. Mais je préfère trop de lumière de tous ces ténèbres, tous ces gris. Et donc, Philemon et Paul, une relation saine en Christ qui est pour l'éternité. Et cette relation va durer pour éternité. On commence des relations qui ne vont jamais arrêter parce que c'est la vie éternelle. Et ça, c'est la chose, en tant que pasteur, je suis en train de cultiver dans cette église. Et je vois ça, et ça m'encourage énormément. Avançons dans cette amitié. Cultiver les relations comme ça qui va toucher les gens. Que Dieu vous bénisse.